En tout cas, on s'écoute Couleur sur Paris.
Des clodans, des chauves, des mecs, des grands et des grands. Imagine un peu la gueule de ton père. Ah, si ces messieurs avaient les cheveux verts. Si ces messieurs avaient les cheveux verts. Couleur sur Paris, na na na. Il est temps de chanter, na 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 na. Couleur sur Paris, na na na. Il est temps de chanter. Qui est triste à tuer. Prends des bombes de peinture et bombe tout. Écris ce que tu penses sur les murs. Écris ce que tu penses sur les murs. Couleur sur Paris, na na na. Il est temps de chanter, na 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 na. Couleur sur Paris, na na na. Il est temps de chanter, na 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 na. Oh.
Et voilà, Oberkampf, couleur sur Paris. Donc ça me permet de faire une spéciale dédicace à Pat Kebra, bien sûr, le guitariste, le guitar hero de Oberkampf, qui fait maintenant un label qui s'appelle Kebra's Records. Et voilà, bah, qui continue et qui n'a pas lâché l'affaire, qui est toujours aussi passionné. Et on peut trouver sur internet tout sa prod, ses disques, hein, c'est Kebra's Records. Salut Pat, spécial dédicace. Donc de retour sur les ondes de KLSU 92.2 MHz avec Agnès pour son livre que je tiens dans ma main et qui s'appelle « I Wanna Be Loved By You ». On continue d'ailleurs un petit peu sur l'écriture, que tu compares à une séance psy. Les mots arrivent, comme peut-être les pensées arrivent, tu ne sais pas où ça va te mener. Est-ce que dans l'écriture, il y a un aspect un peu cathartique ou psychanalytique ?
Ben oui, je pense tout à fait. Oui, ça m'a fait penser quand j'étais allée pendant 7 années quand même voir une psychothérapeute dans une association pour toxicomanes. Donc c'était gratuit. Hein, c'est vrai que ça, j'avais pas envie d'y aller. Je me disais toujours, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et une fois que j'étais dans le bureau, et ben, dès que je commençais à lâcher 2-3 mots, ben, c'était parti. Je pouvais parler pendant 1 heure, 3 quarts d'heure sans m'arrêter. Et l'écriture, c'est pire. Pareil, c'était très dur de me mettre à écrire. Et chaque fois que je m'y mettais, après, c'était parti pour des heures et des heures sans pouvoir m'arrêter. Mais le plus dur, c'est de m'y mettre, comme dans tout ce que je fais, quoi. Le plus dur, c'est de m'y mettre. Mais voilà. Et après, par contre, j'ai une capacité de travail assez phénoménale. C'est dommage que je me dis parfois que je n'ai pas pu travailler dans ma vie parce que je pense que j'aurais satisfait.
Excellent.
Mais je ne peux pas arriver à l'heure, non, ça. Ouais.
Bon, non, c'est pas une chance hein, de peut-être aussi de pas avoir pu voilà, pas trop travailler quoi. Et comme à une séance de psychanalyse, est-ce que tu as été surprise toi-même par tes pensées dans l'écriture, toi, parce que tu vas loin, parce que tu oses écrire des choses?
Bah, sur quelques trucs perso, oui, mais bon, comme j'avais déjà fait auparavant quand même cette psychothérapie, j'avais déjà quand même sorti beaucoup de choses. Mais oui, sans doute, de toute façon, on ne pense les choses que si on les dit ou si on les écrit, quoi. On peut pas prendre, enfin, ou dans sa tête, mais bon, il y a souvent, c'est quand on parle qu'on en vient à dire des choses qu'on n'aurait jamais pensé si on n'avait pas parlé de... C'est dingue d'ailleurs comment quand on réfléchit, c'est le langage qui fait qu'on pense, quoi. C'est clair et net que si on n'avait pas le langage, on pourrait pas penser parce qu'on pense avec des mots, quoi. Et que ça se construit au fur et à mesure. Et des fois, on se demande, mais d'où ça vient? Pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là? Tu vois, si c'était pas moi, est-ce que j'aurais dit ça? Enfin, est-ce que ça dépend de notre personnalité? Enfin, des fois, je me pose des questions comme ça.
Non, mais ce qui est génial, alors là, en t'écoutant, j'étais en train de me dire que finalement, la pensée, c'est un peu la psychanalyse parce que ça reste intime, personne ne le sait, quoi. Et le langage, c'est un peu comme ton livre, c'est-à-dire tu dis aux autres, quoi. T'as révélé aux autres.
Ce que j'ai moi-même fait avec ma psy, quoi.
Après avoir écrit ce bouquin, maintenant que ce livre est paru, est-ce que tu regrettes des choses parce que t'as dit des choses et tu dis, bon, j'aurais peut-être pas dû ou... Pas le fait, toi, de pas assumer, mais le fait de l'avoir dit, quoi.
Non, parce que, bon, c'est pour moi, c'est vrai. Et après, non, je regrette pas. Bon, ça, je sais que ma mère l'a lu, ça l'a été beaucoup choquée, okay. Par contre.
Mais tu l'as écrit pour ta mère, c'est
et
de tenir.
Mission
accomplie.
Alors voilà, mission accomplie. Alors, j'ai arrêté de bien vous. Quand j'ai su qu'elle a lu le livre, eh bien, j'ai arrêté de lui en vouloir. Comme quoi, ça a eu son effet quand même.
Ok.
Du coup, voilà.
Le livre a parlé pour toi, en fait. Ouais. T'as pu lui dire à travers ce livre ce que t'as jamais réussi à lui dire réellement.
C'est ça. Et je, du coup, maintenant, je lui en veux beaucoup moins. Pas arrêté, beaucoup moins. Je lui en veux beaucoup
mais
moins.
Mais est-ce qu'elle a compris? Parce que tu, on peut entendre.
Je sais pas, non, ouais. Ça, je sais pas si elle a compris. Non, parce que pour elle, elle a sa version qui est pas du tout la même, évidemment. Et puis, de toute façon, comme je dis, hein, la mémoire n'est pas une science exacte, hein. Deux personnes qui vivent la même chose racontent l'événement. Il y a des fois, il y a rien à voir, quoi. Hein. On vit pas les choses du tout de la même façon. Mais moi, j'essaie d'être le plus sincère possible, en tout cas. Et mais bon, voilà, c'est mon point de vue et c'est normal que ce soit pas le sien. Et puis elle a oublié, on refoule plein de choses. Hein. Ouais. C'est ça, c'est sûr.
D'ailleurs, justement, à travers l'écriture, c'était plus un chemin de guérison ou alors ça a accentué peut-être un peu plus certaines blessures ou certaines cicatrices. Ça a réouvert ta mémoire.
Non, parce que je l'avais déjà réouverte auparavant. Mmh. Et moi, non, au contraire, j'aime bien me souvenir. Et puis, j'ai eu la chance aussi, avant de finir le livre, de retrouver Gilles, qui aussi lui est vivant et qui m'a donné son point de vue de cette époque et plein d'anecdotes que j'avais moi totalement oubliées et du coup ça enrichit un peu plus les souvenirs quoi. Et il y a plein de choses que j'ai pas dit hein. Des fois je me dis ah tiens j'aurais pu parler de ça et encore de ça parce que on m'a dit que les gens en fait ils auraient bien aimé plus d'anecdotes avec les groupes ou les gens qui sont un peu plus connus
C'est vrai que c'est du name dropping. Tu cites beaucoup de groupes de cette époque et c'est aussi ce qui est agréable parce que voilà ben si t'as écouté ces groupes c'est
oui,
un peu comme
je les côtoyais aussi comme Elno, Ritier et plein d'autres personnes voilà ah si j'ai alors Gaston qui faisait partie de la première formation des Négresses Vertes. Vous voulez que je dise que c'est lui qui a écrit le morceau La Négresse des la danse des Négresses Vertes.
Okay.
Voilà. D'accord, Bernard Possani, c'est dit.
C'est comme on dit, il faut rétablir la vérité.
Que je le mets dans le bouquin, je dis rendons à César ce qui est à César. Exact. Parce que je parle des négresses, parce que je suis arrivée à Paris et du coup je retrouvais Elno, que j'avais connu justement à 14-15 ans, là, quand j'étais en vacances avec mon père à Saint-Raphaël. Lui devait avoir à peine 18 ans, il était avec un pote, ils étaient dormaient sur la plage. Et donc, on se retrouve à sniffer de la colle et après à flirter ensemble. Et quand je suis revenue à Paris à 18 ans, je retrouve en fait Ritier, qui est son frère jumeau, que je prends pour Elno. Et donc, c'est comme ça que je les retrouve. Et je t'appelle Elno et il me dit, bah, tiens, si tu veux, qui faisait les chœurs encore dans les Bérues, mais qui venait de monter les Négresses Vertes. Il m'a dit, viens voir mon groupe dans un petit bar. Et donc, j'ai vu les tout premiers concerts des Négresses Vertes, quoi. Et voilà, Gaston, c'était un pote, mais il n'en faisait plus partie. Mais, du coup, je veux dire, ils ont été, en un an, la montée fut fulgurante, hein, comment ils ont été célèbres, ça a été fou.
Elno, on va l'entendre tout à l'heure, chanter avec les Bérues, Vivre Libre ou Mourir à l'Olympia, où il fait les chœurs, justement. Et puis on entend le fameux « Salut Elno !» enfin, mais là, tu viens d'aborder aussi un peu, je dirais, pas la fin du mouvement, mais justement, c'est l'arrivée là des majors qui vont d'un coup vouloir absolument un groupe de rock dit alternatif au catalogue.
Voilà, c'est ça, ce mouvement rock alternatif. Là,
Et donc, les Négresses Vertes vont sûrement être signées. Et donc, ça va un peu déposséder. Ça va donner une énorme visibilité, clairement, à tous ces groupes. Mais finalement, pas si politisés que ça, comme les Satellites, par exemple. Enfin, c'est une nouvelle ère qui va commencer. C'est un peu la fin.
Les Négresses ont fait des concessions. Ils ont dû changer de batteur pour enregistrer, virer une choriste. Parce que je chantais pas assez bien. Ils ont quand même été obligés de faire quelques concessions, quoi.
Mais c'est aussi ça, cette époque-là, ce truc, tout le monde est très accessible. C'est que rapidement, tu peux rencontrer les gens, tu peux traîner avec les gens. Le punk, même dans mon imaginaire, c'est ça, au-delà de que tout le monde est capable de faire les choses, c'est ce côté, normalement, il n'y a pas de star, quoi.
Non, normalement, oui, c'est vrai, il n'y avait pas de star. Mais bon.
Ah, t'as dit mais.
C'est... Ben oui, parce que c'est peut-être des fois, c'est le public, quoi. Peut-être qu'il les met à cette place-là, hein, même si la personne ne veut pas, quoi. Là, c'est pour ça que les concerts d'OTH, c'était quelque chose de.
Ton deuxième chouchou, ça.
Parce que justement, on ne sentait pas du tout cette séparation entre les musiciens et le public. On sentait vraiment. Quelque chose, un partage vraiment je sais pas comment dire, il y avait pas nous on est les stars et vous êtes le public, il y avait vraiment un réel partage, quoi, à égalité. C'était vraiment vraiment le concert marquant là que je décris au bikini, ouais. Là, wow. Mais même là, quand j'ai dit qu'un spi, même les gens, ils reconnaissent que c'est un de leurs meilleurs concerts. Ils ont rejoué donc deux fois le set, quoi. Parce que personne n'avait envie que ça finisse.
Ouais, hein. C'est excellent.
Ouais.
Ouais, parce qu'il y a en plus un set punk rock, ça peut être déjà, une heure, plus
ouais,
d'une heure.
Plus donc, d'une heure, ouais. Ils ont dû jouer trois heures. Hein. C'était un truc de ouf, quoi.
Personne ne voulait les laisser partir.
Non, c'est ça.
Et pour continuer toujours dans cette écriture et dans cette énergie, tu parles de point de vue et c'est super important. Et oui, il faut le préciser, c'est donc ton point de vue subjectif aussi, puisque c'est la façon dont tu as vécu les choses en tant que punk. Et je voulais savoir si tu considérais ton livre comme un livre punk et aussi s'il y avait pour toi une littérature punk.
Ben, de plus en plus, apparemment, hein, puisqu'il y en a de plus en plus qui écrit. Et après, une littérature punk qui est connue, enfin qui. Non, je ne mettrai pas Virginie Despentes dans le punk. C'est... si, c'est. Bon, si, quand même, c'est un peu. C'est différent. Mais des fois, j'ai l'impression qu'elle se sert un petit peu de ça sans vraiment... Il y a plein de coquilles, hein, quand même, si, dans ses bouquins par rapport aux références à la drogue. Après, bon, je sais qu'elle était à Lyon, qu'elle était punk, qu'elle était jeune. Mais ça fait longtemps qu'elle a quitté tout ça, quoi. Il me semble que c'est... Elle s'en sert... comment dire, pour ces personnages dans les livres, mais je sais pas, littérature punk, je crois même qu'Amélie Nothomb a peut-être pris plus de drogue que Virginie Despentes.
Amélie, si tu nous écoutes, tu crois qu'elle va à Oberkampf, la station Oberkampf, Amélie, quoi.
Elle a un petit look gothique, hein, peut-être pas Oberkampf.
Mais et toi, ton écriture, parce que tu parles, parles de la scène punk, mais ouais. Est-ce que ton écriture est punk?
Ah non, je pense pas. Non, moi je suis pas. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir un peu plus jouer avec, comme dans la poésie, quoi, avec les mots, quoi. Mais ça, non, j'y arrive pas. Alors, mais peut-être. Hein, mais bon, moi, ça me. Je suis pas très. Je suis pas très poésie, quoi. J'ai du mal avec les poèmes. Et ce serait inventer des... Je pense que s'il y avait une écriture punk, pour inventer des mots, il faudrait... ou alors peut-être... Il faut carrément revenir à une époque plus ancienne, à des surréalistes ou quelque chose comme ça. Là. Ça serait peut-être punk.
Mais justement, ça t'a donné envie de continuer d'écrire ? Parce que tu parlais de travail et...
J'arrive pas dans le... Faudrait que... Non, j'essaye la fiction.
Ouais.
Mais pour l'instant, je me suis pas encore mis, non. Tout le monde me dit d'essayer, mais bon, il faudrait que je m'y mette.
Oui, mais quand tu t'y mettras, ce que tu me disais tout à l'heure, tu vas réussir.
Voilà.
Le plus dur, c'est de s'y mettre.
C'est de s'y mettre parce que j'ai pas encore vraiment, je ne suis pas encore vraiment mise.
Donc oui, je sais pas comment qualifier ton écriture, c'est très descriptif en fait.
Ouais, c'est plus un témoignage, hein, ouais. Hein, une autobiographie. Après, le style, je sais pas si j'en ai un.
Est-ce qu'on peut juger son propre style d'ailleurs?
Non, je pense pas. C'est difficile, c'est aux autres de le faire.
Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, tu te dévoiles beaucoup, tu parles d'amour, de sexualité, il y a toute une réflexion aussi autour du désir, de l'orgasme féminin.
Ouais, ben oui, c'est des questions qui qui m'ont interpellé, quoi, on va dire. Et c'est vrai que, qu'on a un peu, en tant que femme, à une certaine époque, un peu moins maintenant quand même, on a une injonction, hein, ce qu'il fallait jouir. Et puis, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas ce que c'est au début. Ouais. Et puis, surtout, les premières expériences, je pense qu'on n'obtient pas, on ne joue pas forcément du premier coup, quoi. Et puis, qu'il faut apprendre à se connaître, hein, en tant que femme, et ça prend quand même pas mal d'années, je pense. Et là, je sais pas si c'est plus facile pour les hommes parce qu'ils ont l'injonction de bander, c'est autre chose. Ce qui était bien aussi avec, nous on n'était pas au tout début de ma sexualité, hein, la bande avec qui j'étais, c'était naturel. Enfin, il n'y avait pas de mauvais jugement parce que tel je baisais avec un autre. On changeait régulièrement de petits copains, de petites copines, ça se croisait. C'était pas mal vu.
Non, mais c'est vrai que la sexualité, les corps libres, c'est une iconographie très punk 80 aussi.
Ouais.
La sueur, l'abandon dans la pulsion, le côté peut-être électrique.
Oui, et puis bon, c'était Baresi et Ranjo, quoi, on va dire. Il y avait aussi les filles, on avait au départ c'était pas mal de détourner les fringues SM, quoi, détourner, hein, avec des, c'était assez sexy quand même, moi je trouve, hein, que c'est,
ouais. Oui, parce que dans ton écriture il y a quelque chose d'assez sensuel, tu décris des relations intenses, des interactions érotisante, magnétique, électrique, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'incarne, qui fait partie un peu de ton identité.
Oui, ben aussi avec l'héroïne, hein. C'est vrai que ça décuple un petit peu les sensations à ce niveau-là. Ce qui est étrange, c'est que on a beaucoup de plaisir, mais ça empêche la jouissance. Mais bon, ça, par contre, au niveau des sensations et tout, c'est quand même ça m'a libéré. Je peux dire ça comme ça. Ça m'a quand même libéré, aidé à me découvrir, quoi. Beaucoup moins tôt, si j'avais pas pris des roses. C'est vrai que j'ai beaucoup lié la drogue au sexe depuis le début, enfin depuis début juin. C'est vrai que ça m'a... C'était la musique, le sexe, drogue et rock'n'roll, mais c'est vrai que c'était comme ça, quoi. Les trois se mariaient bien ensemble.
Ouais, il y a un lien clair, en tout cas, ouais, dans ce que tu décris, entre le côté lâcher prise, il y a aussi faire confiance au moment, à l'instant, pas être dans le jugement. J'ai l'impression que c'est ça aussi... le goût pour la liberté, quoi, et l'expérience du moment.
Oui, c'est ça. Et puis, surtout, ne pas, comment dire... Moi, je me rappelle quand même au début, quand j'ai eu mes règles, rien que de dire que j'avais mes règles à un garçon, au départ, j'avais honte, quoi. J'avais honte d'avoir... C'est dingue, hein, pourtant, c'est tout naturel. Hein. J'avais honte d'avoir mes règles. Et puis, par rapport à ça, le mouvement punk, ils se mettaient des tampax à la maison, de leur meuf ou quoi. Ça démystifie tout, quoi, quelque part. Et puis, c'est plus facile, quoi, je veux dire. Alors que, moi, on m'avait jamais trop parlé de ces choses-là. Ma mère m'avait jamais dit que la première fois que j'allais être dépucelée ou que je ferais l'amour, que j'allais saigner, je ne savais même pas, quoi. Et on n'en parlait pas. Enfin, à l'époque où j'étais pré-ado, on n'en parlait pas, quoi. Peut-être que c'est maintenant plus facile pour les filles, hein, de maintenant.
Et est-ce que, j'ai pas l'impression, je me souviens pas, mais est-ce que le mot féminisme est écrit à un moment donné dans ton livre, ou t'as pas besoin de le préciser ?
Je pense que j'ai pas besoin de le préciser, plutôt. Okay. Et puis après, évidemment qu'il faut que les femmes aient les mêmes droits. Moi, je parle plutôt d'équité. plutôt que d'égalité, parce que ça m'a un peu énervée dans les premières féministes, là, c'est que elles voulaient être trop égales, ou comme les hommes, quoi. Alors qu'en fait, non, il y a des différences. Il ne faut pas les gommer, quoi, ces différences. Il faut plutôt, justement, l'équité permet de les rattraper, de remettre tout le monde au même niveau. Et je trouve qu'entre femmes, il n'y a pas de solidarité. Mais ça a été très dur. Et en prison, j'ai eu beaucoup de mal avec les filles aussi. Et ça ne m'a pas aidé à avoir, une attitude vraiment féministe, militante. Mais évidemment que c'est évident, quoi, que surtout dans d'autres pays, encore plus qu'en France, où le patriarcat, la femme, il y a encore beaucoup 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 à faire, quoi.
Et pour continuer sur ce thème, quand tu parles de violence, t'associes la violence légitime des garçons envers le monde extérieur. Et toi, tu précises que, en tant que femme, cette violence, tu vas la retourner contre toi.
Une différence, c'est que pour les femmes, c'était mal vu d'être violente. Hein, alors que, autant pour un garçon de se défendre ou quoi, ça va être mis en avant, autant pour une fille, d'être violente, c'est vraiment mal vu. Et c'est vrai que elle est de l'âge de 14, on va dire, à 18, j'étais violente, je pouvais me battre avec d'autres filles ou autre. Mais après, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était plus une démarche autodestructrice, ouais, que j'ai retourné donc cette chose contre moi-même, quoi. Mais je pense à une époque, c'est vrai que peut-être j'aurais rencontré d'autres personnes, ouais, à un moment donné, qui m'auraient amené vers quelque chose de plus constructif, comme je l'ai fait à la trentaine. Peut-être, ouais, j'aurais pu éviter tout ce passage et continuer à faire des choses beaucoup plus constructives et intéressantes.
Pour clore un petit peu le chapitre sur la sexualité, on a parlé des sexualités subies, sexualités consenties, et tu l'as aussi évoqué, il y a certaines scènes décrites qui font effectivement penser à de l'autodestruction, et toi-même tu dis qu'à ce moment-là, être punk ou être junk, c'est un peu la même chose, quoi.
Non, c'est pas la même chose, mais moi, j'ai voulu autant m'identifier comme j'avais voulu m'identifier à 14 ans au punk. Plus tard, pour moi, je voulais devenir junk. Je voulais devenir junk avant même de me faire un shoot d'héro. C'est fou, mais c'est comme ça. J'avais choisi. Mais, à 18 ans, je serais junk.
mais ça correspondait à quoi?
Non, en fait, c'est vrai que j'en avais envie. C'est vrai que beaucoup de culpabilité quand même d'avoir fait souffrir quelques garçons. Et je veux dire que cette violence, cette pulsion, de pulsion de mort, j'imagine, que je savais pas quoi en faire et que j'ai retourné contre moi. Et...
Donc, intimement, tu savais que c'était quelque chose qui allait aller contre toi. C'était pas chercher.
Oui, mais je m'imaginais pas vivre après 25 ans. Ouais, alors ouais. Je m'en foutais, je voulais en profiter. Et puis, ça me plaisait. Et puis, tous mes potes m'en prenaient aussi. Mais je voulais, sincèrement, je pense que ça ne m'aurait pas gêné de mourir d'une overdose. J'imaginais pas ma vie après. Je ne m'imaginais pas vieillir. Hein. D'ailleurs, c'est pas facile.
D'ailleurs, c'est pas facile. Et oui,
peut-être que les générations de maintenant, se faire du bien, c'est peut-être toi le militantisme, du bien, c'est peut-être l'action politique plus radicale.
Ben oui, certainement. Mais oui, effectivement. Mais pour faire ça aussi, je pense qu'il faut quand même avoir un certain équilibre hein, pour le faire bien. Quoi. Je pense que si on est trop mal, on peut pas, on n'a pas la motive. Et puis. Mais bon, c'est sûr que dans un mouvement social élargi, c'est peut-être facile de s'impliquer. Mais après, militer dans un truc un peu clandestin, ou c'est peut-être moins évident, quoi.
De retour sur les ondes de Canal Sud, 92.2 MHz avec Agnès pour son livre « I Wanna Be Loved By You ». Oui, on vient d'entendre Vérol, quel sacré poète, Vérol quand même. Je pense que Les Cadavres, c'est le groupe que j'ai le plus vu sur Paris et banlieue, voire région parisienne à cette époque-là, plus dans les 90 quoi, tout début 90. La vie des punks est aussi rythmée par les concerts.
C'est ça. Et je pense à Vérol, ben lui, pour avoir une écriture punk, par exemple, hein, il a écrit des beaux textes bien noirs.
Complètement, ouais.
Mais ouais, ça, c'est aussi bien dans l'esprit, quoi. Et là, j'aime bien sa façon d'écrire, son écriture.
Ouais, une belle plume sur l'ennui, la mort.
Ouais, tout à fait.
Tout ce qui lui fait peur. Et donc, c'est quoi l'importance des concerts pour toi dans ton parcours ?
Ah ben, c'était très important. À l'époque, on prenait le train. C'était gratuit, le train. Et c'était gratuit avec sa carte d'identité, c'était gratuit. Et donc, voilà, je pouvais partir à Montpellier pour voir un concert à Paris. Non, c'était assez important quoi, d'aller en concert.
Et d'ailleurs, en parlant de concert, j'ai une petite remarque, voire un reproche. J'ai vu que tu avais vu Conflict en 1983.
Ouais, à Londres.
Ah mais franchement, 10 ans avant que tu puisses les voir. Conflict en 83 à Londres.
C'était fou. Ah ouais, dans un pub. Ouais. Il y avait un pogo de ouf d'enfer. Quoi. En première partie.
Ouais, par exemple.
Alors, c'était un groupe, tout le monde était assis par terre. Il y avait je ne sais pas ce que c'était, mais il ne faisait pas beaucoup d'émules, le groupe. Je ne me rappelle pas du nom. Alors j'étais surpris parce que du coup je suis restée au milieu quand Conflict est arrivé. Ça a été tout le monde a sauté partout. Je me suis pris un bouton clouté dans la gueule, ça m'a ouvert la lèvre. Moi je suis quand même restée parce que je voulais pas faire la bobo, j'ai bobo. Mais j'étais surprise de la violence quand même du pogo. Mais ouais non je me rappelle plus du tout avec qui ils ont joué quoi. Mais bon moi c'était j'étais voir Conflict, mais c'était pas. C'est encore sur scène.
Ouais.
Si, sur scène, j'avoue qu'il y a une énergie de ouf. C'est...
Surtout en 83.
Voilà, franchement, c'est vrai. Mais après, bon, voilà, ça, la musique, après écouter ça sur vinyle, ben j'ai un peu plus de mal, quoi. Mais après, c'est vrai que j'admets que sur scène, ils ont ça a une patate d'enfer, quoi. Ça envoie.
Et oui, parce qu'on égrène aussi pas mal de noms, puis tout à l'heure des noms de groupe. Et quand on lit ton bouquin, c'est vrai que tout au long du livre, tu fais des références à toutes ces le qui sont morteux. Et c'est impressionnant, des anonymes aux personnes les plus connues. T'as un nombre de potes et de potesses entre la cam, les accidents de la vie, c'est assez... plus on avance, en fait, plus tu fais référence à des personnes qui sont mortes.
Non, mais les trois quarts, je pense qu'on avait bien les trois quarts des personnes qui sont mortes de cette époque.
Quand tu dis que tu es une survivante...
Ben, quand ça va mal, je les envie. Mais sinon, oui, c'est vrai que... Ben, je remarquais quand même que la plupart des gens qui ont survécu, c'est les gens qui ont fait des enfants. Bon, c'est peut-être pas pour rien. mais sinon, c'est vrai que beaucoup, beaucoup d'entre nous, ils sont passés. Et voilà, je pense que je dois avoir un système immunitaire à toute épreuve. Ouais, les traitements, ils sont assez quand même efficaces. Mais bon... Ça fait pas longtemps. Du coup, pour les gens qui ont été, qui ont attrapé le sida en 80, c'est sûr que. Et puis c'était fulgurant. En 3 mois, une fois qu'il se déclarait, comme il n'y avait pas encore de trithérapie, eh bien, en 3 mois, c'était fini, quoi. Après, il y a eu les premières trithérapies, ça a fait un peu durer, mais bon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou d'overdose aussi, mais je pense que. Parce que où les gens étaient déjà affaiblis, parce qu'en fait, le taux d'overdose, c'était une centaine de personnes. J'avais regardé sur l'année, c'était entre 100 et 200 personnes sur toute la France. C'est pas si énorme, hein, quand même. D'overdose, c'est vraiment pas si énorme, quoi.
Vous l'avez envoyé, vous l'avez pensé, vous l'avez caché. La, la, la. futur pour les petits durs? Et quel futur entre quatre murs? Et quelle société pour les enragés? Et quelle société pour les gueules cassées? Et quelle société pour les têtes brûlées? Pour les agités, pour les pieds nippés? Et quelle société pour les verrouillés? Pour les défoncer, pour les détruire? La, la, la.
François, Gilles Lazaro, bon, il n'y a pas très longtemps, Bralno, Gilles Bertin, c'est les états du rock maintenant. Il y a eu les états du rock dans les années 80.
Les états généraux du rock. Ouais.
Et là, waouh, wow, rempli des cimetières pour revenir aux 20 ans finalement. Tu dis qu'on a le droit et même le devoir d'y croire, d'être déterminé, de prendre des risques et aussi bien sûr d'être un peu naïf. Alors je sais pas quel âge ont tes enfants, s'ils ont
un peu plus, mais ils ont pas du tout, se sont pas du tout révoltés contre la société.
Comme toi t'as pu l'être, ouais, ils y comment croient pas non, de la même façon.
Croient pas. Non, ils y ouais, croient ils y pas, croient mais ils font rien pour essayer de changer les choses, du moins. Ils se sont pas encore impliqués quoi dans une quelconque militance, ça va, ils veulent quand même pas devenir flic.
Ah, c'est déjà ça. Et toi, t'y crois toujours?
Eh ben là, j'espère que donc, je vois qu'il y a des... ça a l'air de prendre un petit peu là en ce moment là. Ça serait bien que qu'on en finisse de ce gouvernement là, Macron, parce que 10 ans là, ça fait long. Hein.
Ouais, il y a des grosses manifs.
Ouais, j'espère que les jeunes. Il paraît qu'il y a des jeunes hein, qui commencent à aller aux manifs, des lycéens, des étudiants. Ben il serait temps. Moi, je pense qu'il serait temps. Et voilà, j'aimerais bien que ce livre, bon, la plupart du temps, il est lu par des vieux comme nous. J'aimerais bien qu'il soit lu par des plus jeunes, quoi. Et justement, pour qu'ils aient envie un petit peu de se révolter, d'y aller et sans tomber justement dans par où je suis passée, quoi. Parce que forcément, si ça marche pas, se retourner l'arme contre soi. Est-ce que j'ai trouvé ça triste, toi? Oui, par moment, mais pas... Moi, je le vis pas comme. Pourtant, on me dit ça, hein, que c'est triste, c'est une vie dure, mais moi, je le ressens pas comme ça. Oui, j'ai eu des périodes dures, hein, mais j'en ai eu aussi de très exaltantes, quoi. Que, vraiment, quoi. Que je sais que je pourrais jamais plus revivre. Voilà. C'est les années 80. Bon, après, c'est peut-être parce que j'ai eu 20 ans dans les années 80. J'aurais eu 20 ans dans les années 90. Je dirais peut-être la même chose, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on a vécu quand même quelque chose de particulier, quoi, et qui arrive pas tout le temps. Et oui, c'est pas évident de revenir de ça. Hein. Après, la vie paraît bien insipide quand on a vécu tout ça. Toi.
Moi, je trouve ce qui se dégage plus une certaine
que c'est
force.
Triste.
Ouais, non, t'as raison. Ouais, pas, moi, j'ai pas ressenti de la tristesse. Au contraire, plus une espèce de force. En tout cas, c'est ce qui se dégage de toi, quoi. Dans toutes les situations, même les plus dramatiques, j'ai toujours l'impression que tu as des ressources en toi qui te permettront de dépasser ces situations. Ouais. Tu as l'air quand même toujours très lucide. Tu as une espèce de force et de rage en toi.
C'est la rage, ouais. La prison aussi, c'est la rage qui m'a fait tenir. Vraiment. Elle revient vite, hein.
Ouais, j'imagine.
Tu me manif, tu me mets mort aux vaches, ça revient vite.
La rage.
Je vais devant des flics, ouais. La rage, je reviens de suite.
Ta rage n'est pas perdue, bien sûr. Avant de se quitter, j'ai préparé un petit blind test. Je fais une émission en fait sur les antennes qui s'appelle Avis d'accordéon. Et voilà, c'est une émission sur l'accordéon. Donc là, c'est que des titres à l'accordéon, tu vas voir.
Ah, ok.
Et alors, l'idée, c'est de pas me. C'est des reprises. Qui ont été faits par des groupes punk. Donc l'idée, c'est de ne pas me donner la personne, le titre d'origine, ni le chanteur ou le groupe d'origine, mais le groupe punk qui a fait la reprise. Okay. C'est trop facile de me dire l'original, tu vois.
C'est qui joue l'accordéon?
Alors, nous avons Aimable, y a plein de gens, tu vas voir, que du lourd, il y a que du lourd ici, quoi. Et tu vas...
Jodassin.
Mais non, justement.
Quoi? Ah merde!
Le jeu, c'est ça! C'est trop facile de dire Joe Dassin. Il y a un groupe punk.
Ah, ben oui, c'est le cadavre.
Voilà, c'est ça le jeu.
J'avais compris l'inverse. Mais oui. Je n'allais pas dire le groupe punk.
Bon, tu remarqueras que c'est. Eh oui,
Avec. C'est vrai.
Évidemment. Truc bien ringardos. Deuxième titre. Donc, ça, les cadavres, évidemment. Deuxième titre.
Ah, j'avais pas retrouvé le morceau.
La Glockchina, ma Glockchina.
Ben oui, c'est la verrue alors.
Ouais, c'est ça. Exactement, les verrues. Ce qui est drôle, c'est que c'est de l'accordéon, évidemment. Au secours, on est obligé d'écouter. Alors Agnès,
je connais le morceau, mais comme ça.
Lueur, le port d'Amsterdam.
Ah oui.
Alors qui a fait une reprise du port d'Amsterdam? Voilà, Parabellum, bien
c'est
joué.
C'est bizarre l'accordéon, ça perturbe l'accordéon.
Carrément, quoi. En plus j'ai choisi l'accordéon parce que dans le groupe que t'as fait, dans lequel t'as joué, il y avait un orgue de barbarie. Je me suis dit, au début j'étais parti sur essayer de les trouver en orgue de barbarie, mais ça c'était pas facile.
C'est pas
quoi.
Facile, oui, en plus qu'il avait électrifié lui-même et il faisait les cartons troués aussi lui-même pour faire la musique. Il faisait pas trop de reprises d'ailleurs.
Ouais.
Ah si, ils en faisaient plein de. Mais ah oui, ça c'est Pigalle.
Ouais, je crois que c'est les autres, quoi.
Les garçons bouchés.
Ouais, quoi. Voilà.
Pardon.
Non, mais c'est Lambala. Génial. Tu étais la seule à dire en écoutant ça, les garçons bouchés.
Pourquoi?
Bah parce que tous les gens qui écoutent, ils se disent la lambada, tout ça, mais ils savent pas que c'est une reprise des garçons bouchés. Qui disait que la lambada, ils aimaient pas ça. Et la dernière, tu vas trouver, mais alors tranquille. Et ma. Oh. Puis là, il y a du bon vieux son.
Ah oui, les 5 heures.
Oui.
Alors ça, c'est les rats.
Ouais. C'est génial, j'adore ce jeu. En 30 les secondes, Paris. S'éveille. Non, voilà, très bien. Bon, t'as fait un kin, hein.
Non, j'ai raté un petit peu Parabellum, je sais pas pourquoi, mais l'accordéon, ça me semble.
Ah, c'était trop bien joué, c'était trop.
C'était trop.
C'était trop réussi, quoi, c'était trop proche de la vraie version.
Oui, parce que c'est. Je sais même pas c'est qui la vraie version.
Brel, le port d'Amsterdam.
Ah, oui,
Jacques, de la Fraise, nous écoute.
C'était trop, ouais, c'était vraiment proche.
Agnès, tu veux rajouter quelque chose? On va terminer par un titre de TH, donc ça nous permettra de faire un coucou à Spi. Yes. C'est quelqu'un qui a l'air important aussi. Mmh. Pareil, dans ton bouquin, il apparaît, c'est lui qui a fait la préface.
Ben oui, c'est lui qui m'a poussé à écrire ce livre, sinon...
D'accord. Ouais, ouais.
Oui, s'il m'a donné confiance en moi, sinon j'aurais jamais réussi à terminer. Et oui, parce que c'est vrai que quelque part, on me fait des choses, enfin moi, je me fais des choses, apparemment, que si, que pour, parce que pour plaire, oui, à l'autre. Pour, je sais pas comment dire, pour, oui, c'est un bon moteur, quoi, je veux dire. Pour moi toute seule, j'ai du mal à me motiver, quoi, si c'est juste pour moi, quoi.
Et ton bouquin, on peut le trouver où? Sur Toulouse?
Ah oui, je voulais dire ça, d'ailleurs. Eh bien, alors, au kiosque à La Chapelle.
Ok.
Et sinon, il faut le commander sur Internet à laprépétroleuse.com.
D'accord.
Ou me contacter par mail. Et donc, il y a mon mail... Et je le donne, mais c'est agnes-despouilles@riseup.net.
Et voilà.
Tiré du haut.
Et il y a plein, voilà, il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé aussi dans ce bouquin. Tu veux rajouter un dernier truc avant de se quitter avec OTH?
Non, ça va, c'était sympa.
Cool, merci. Ben, merci pour tout.
À bientôt.
Ouais, carrément.
À la fête du kiosque là, au mois de mai, j'y serai.
Ah, super, ok.
Il m'a invité Paulin. Voilà.
Tu fais une intervention, une lecture?
Ben oui,
ou...
pour le bouquin.
Il trop bien.
Interview, ouais.
Tu feras des dédicaces?
Oui.
Bon, ben on sera là, ben, on se reverra à ce moment-là alors.
Ok.
Agnès, merci, bonne journée à toi. Écoute, on se prépare, on va aller en manif. Enfin, moi j'y vais, faut faire un peu gaffe quand même, surtout en ce moment. Je sais pas, tu veux finir par un truc en mode vivre libre ou mourir, ou tu vois, un truc qui claque.
Tu viens de le dire.
Ouais, ouais. On le fait ensemble alors, vivre libre.
Vivre libre ou mourir.
Salut, ciao, bye.
En tant que ministre de l'Intérieur, je dois garantir l'ordre public, je le ferai, et les casseurs ne doivent s'attendre à aucune faiblesse de notre part. Le spectacle d'un certain nombre de voyous qui polluent des manifestations, qui cassent, qui démolissent et qui s'en prennent à des fonctionnaires ou à des militaires de la gendarmerie est tout à fait scandaleux. Coming in.